إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc nous sommes arrivés au chapitre de la croyance au messager de cet épître du Cheikh Mohammed Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah rahmatan wasi'a. Donc, quand on dit la croyance au messager, c'est dans le sens large, c'est-à-dire les prophètes et les messagers. On va voir après la différence précise entre les deux. Mais ici, quand on stipule la croyance au messager, c'est-à-dire dans le sens linguistique et dans le sens large, c'est-à-dire tous les prophètes et messagers qui ont été envoyés de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce point-là fait partie des piliers de la foi cités dans le hadith de Jibril alayhi salat wa salam. Les messagers, ce sont tous des êtres humains, premièrement. Les messagers sont tous des êtres humains. Ils ont les mêmes particularités qu'ont les autres êtres humains, comme le fait que la maladie peut les toucher, la mort, le besoin de boire et de manger, etc. Et la croyance au messager se compose aussi de quatre points essentiels. Premièrement, le fait de croire que leur message est véridique, que c'est une vérité qui vient de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc celui qui rejette et qui mécroit en un seul message de l'un d'entre eux, il aura rejeté et mécru en tous les messagers. Le deuxième point, c'est le fait de croire en ceux dont Allah tabaraka wa ta'ala et son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont cité leur nom, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna authentique, comme Ibrahim, Moussa, Nuh, etc. Et de croire de manière générale en ceux qui n'ont pas été cités par leur nom. Les messagers dont Allah tabaraka wa ta'ala a cité leur nom dans le Coran sont au nombre de 25. Et on retrouve une grande partie d'entre eux cités dans les versets 83 à 86 de Sourat Al-An'am. Et ceux dont Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas cité leur nom, nous devons y croire de manière générale, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens de sa parole. Et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment et des messagers dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Dans Sourat An-Nisa, verset 164. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le fait de déclarer véridique ce qui a été rapporté de manière authentique de leur part, dans le Coran ou la Sunna. Le quatrième point, c'est le fait d'agir selon la législation avec laquelle ils ont été envoyés. Nous, la Umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous avons l'obligation d'agir avec la législation de l'islam, celle avec laquelle est venu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, car c'est le dernier des messages envoyés à l'ensemble des hommes et des djinns jusqu'à la fin des temps. Il faut savoir que les savants ont divergé quant à la différence qu'il y a entre un prophète et un messager. Mais avant de citer leur point de divergence, nous allons citer un point d'accord. Le point d'accord, c'est que tout messager est obligatoirement prophète. Mais tout prophète n'est pas obligatoirement messager. Tout messager est obligatoirement prophète, mais tout prophète n'est pas obligatoirement messager. Et pour différencier entre eux, les savants ont cité plusieurs avis. Certains ont dit, le prophète, c'est celui qui a reçu la révélation, mais il ne lui a pas été rendu obligatoire de la transmettre. Alors que le messager a l'obligation de la transmettre.
Cet avis est le plus faible parmi les avis cités. Car comme a dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah, en répondant à cet avis, il a dit « Même les vieilles dames de notre communauté, elles sont dans l'obligation de transmettre ce qu'elles connaissent de la vérité. » Alors comment un prophète, il n'a pas l'obligation de transmettre? Donc ce premier avis, il s'est basé sur l'apparence du sens linguistique des deux mots. « Nabi », ça vient du fait qu'il a reçu la révélation. « Nubbi'a ». Alors que « Rasoul », ça vient du sens qu'il a été envoyé. Donc eux, ils ont expliqué ça selon le sens linguistique. Mais en vérité, on voit que cet avis est vraiment le plus faible et toutes les preuves du Coran et de la Sunna viennent démontrer qu'il n'est pas juste. Il y a un deuxième avis qui est très répandu et qui est cité par Cheikh Al-Uthaymeen d'ailleurs, qui est l'avis aussi de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et d'autres, qui différencie entre le prophète et le messager, entre le fait que le prophète a reçu une révélation, a l'obligation d'appeler les gens à Allah, mais il n'a pas reçu une nouvelle législation, ni un nouveau livre. Il appelle les gens à Allah selon la législation et le livre révélé du prophète, le précédent ou bien contemporain, dans une même période des prophètes et des messagers par exemple. Ceci est le deuxième avis, et ils ont ramené certaines preuves pour appuyer cet avis-là. Le troisième avis, c'est le fait de dire que la différenciation que l'on fait entre un prophète et messager n'est ni lié au fait que l'un a l'obligation de prêcher et l'autre non, car les deux ont l'obligation de prêcher, ni lié au fait qu'ils aient reçu une nouvelle législation ou de nouvelles règles ou non, mais c'est plutôt lié à un autre point qui différencie entre les deux et qui fait que les messagers ont un degré supérieur par rapport aux prophètes qui ne sont pas messagers, c'est que les prophètes qui ne sont pas messagers sont envoyés à des gens croyants, à un peuple croyant, pour les rappeler, pour leur ramener des règles supplémentaires ou autres, alors que les messagers sont envoyés à un peuple contrevenant, même si dans une partie de leur mission peut être pour un peuple croyant, comme Moussa alayhi salam, qui a été envoyé à Bani Israël, qui sont un peuple croyant, mais il a été envoyé aussi à Pharaon et Haman, qui sont un peuple contrevenant et mécréant. Donc, dès qu'un prophète est envoyé pour prêcher un peuple contrevenant et mécréant, alors il a le degré de messager. Et cette parole, Wallahu A'lam, c'est la parole la plus juste. C'est l'avis de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et c'est l'avis qui a été appuyé aussi par Mohamed Amin Shinqiti, rahimahullah, sahib al-tafsir, ainsi que le Cheikh l'Allama Rabi ibn Hadi al-Madkhali, qui est de cet avis-là. Effectivement, quand on regarde et on met en application les différentes définitions données par les savants pour reconnaître la différence entre un prophète et un messager, on trouve que dans les deux autres définitions, à chaque fois, il y a un souci. On trouve premièrement, avec ceux qui disent que le prophète n'est pas obligé de prêcher, des dizaines et des centaines de preuves sur l'obligation de prêcher pour toute personne qui connaît la vérité et pour les prophètes de manière spécifique. Dans le deuxième avis, qui différencie entre les prophètes et les messagers, par le fait que les messagers reçoivent une nouvelle législation ou un livre révélé, on trouve que certains prophètes qui sont reconnus en tant que prophètes et non messagers de manière unanime ont reçu de nouvelles législations et de nouvelles règles. Et d'autres messagers qui sont reconnus en tant que messagers et cités en tant que messagers dans le Coran, ils n'ont pas reçu de nouveaux livres et de nouvelles législations. Comme Adam alayhi salam. Adam alayhi salam, il n'est pas compté parmi les messagers. Le premier messager est Nuh alayhi salatu wassalam. Adam est le premier des prophètes. Mais Adam avait une législation qui venait de la part d'Allah et des lois qu'il a enseignées à ses enfants. Donc quelle est la différence entre Adam alayhi salam et Nuh? C'est que Adam, il a été envoyé à un peuple croyant. Tous ses enfants, ils étaient croyants. Alors que Nuh, il a été envoyé à des gens qui adoraient les statues. D'ailleurs, c'est les premiers qui ont commencé à adorer les statues. De même encore avec d'autres exemples, comme les prophètes Suleyman et Daoud et autres, comme Ismaïl alayhi salam, qui a été cité dans le Coran en tant que messager, mais il n'a pas eu de livre révélé, ni une nouvelle législation. Il appelait les gens selon la législation de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et plein d'exemples comme ça que les savants ont cités pour discuter ce point-là et pour arriver à cette conclusion que l'on a donnée, que la différence entre un prophète et un messager, c'est que le prophète qui n'est pas messager, il est envoyé à un peuple croyant pour les rappeler, pour leur enseigner, pour leur donner des nouvelles lois, selon la mission qu'Allah lui a donnée, pour les prêcher. Ça, c'est la mission générale. Mais la mission précise, selon la mission qu'Allah lui a donnée. Alors qu'un messager, il peut être envoyé à un peuple croyant, Mais dans sa mission, il est envoyé à un peuple contrevenant et mécréant qui le combatte. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a un grade plus fort, car il doit patienter, il est combattu, on cherche à le tuer, à le torturer. C'est pour ça qu'il a un grade plus élevé auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah ta'ala dit « Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul » Patiente comme ont patienté les messagers doués de volonté, qui ont une volonté forte ou qui ont une grande valeur, selon l'explication de ulul azmi. Donc on voit qu'ils ont dû avoir une patience supérieure du fait qu'ils ont été combattus, qu'on a cherché à les tuer, à les ensorceler et autres. Et les meilleurs de tous les prophètes et de tous les messagers sont 5 messagers. Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Mohammed, alayhim salatu wassalam. Et bien sûr, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est le meilleur et l'imam des prophètes et des messagers. Naam. Tafaddal, akhi Mohammed.
Bismillah. La croyance au prophète. Nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé aux hommes des messagers. Mubashirina wa munzirina li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Wa kana Allahu azizan hakima. Suratul Nisa, verset 165. Annonciateur et avertisseur, afin qu'il n'y ait plus d'arguments pour les gens devant Allah après la venue des messagers. Et Allah est tout puissant et sage.
Naam. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka ta'ala n'a pas laissé sa création en vain, mais il leur a envoyé des messagers annonciateurs, c'est-à-dire qu'ils annoncent la récompense pour celui qui obéira à Allah tabaraka ta'ala. Et avertisseurs, c'est-à-dire avertisseurs du châtiment contre celui qui aura désobéi.
Nous croyons que le premier d'entre eux fut Nuh alayhi salam et le dernier Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuh wal nabiyyin min ba'dih. Surat An-Nisa, verset 163. Certes, nous t'avons fait une révélation, nous comme nous en fîmes à Nuh et aux prophètes après lui. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سورة الأحزاب verset 40. محمد n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Comme nous croyons que le meilleur d'entre eux est Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam.
نعم. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des prophètes et des messagers, car il est le dernier qui a été choisi par Allah tabaraka wa ta'ala, et parce que le livre avec lequel il a été envoyé est le plus immense et éminent des livres. Et aussi parce que le jour de la résurrection, les gens viendront demander l'intercession aux différents prophètes, mais le seul prophète qui pourra intercéder pour eux sera Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et pour d'autres raisons encore, on voit donc que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des prophètes et des messagers. Dans le verset cité auparavant, quand le cheikh dit « Nous croyons que le premier d'entre eux fut Nuh, le premier des messagers, et non pas le premier des prophètes, le premier des messagers. » Car il y a des hadiths authentiques qui disent que le premier des prophètes est Adam, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Le premier des prophètes est Adam, il a reçu une révélation et il devait prêcher cette révélation, et même cette législation, à ses enfants, alayhi sallallahu wa sallam. Naam, lis la suite.
Comme nous croyons que le meilleur d'entre eux est Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, puis Ibrahim alayhi salam, puis Moussa alayhi salam, puis Nuh alayhi salam, et Isa fils de Maryam alayhi salam, et ce sont eux qui sont désignés dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idh akhadhna minan nabiyyin mithaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadhna minhum mithaqan ghalidha. Et lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que de toi, de Nuh, d'Ibrahim, de Moussa et de Isa, fils de Maryam, nous avons pris d'eux un engagement solennel. Nous croyons que la législation de Muhammad, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, contient tous les mérites des législations de ses messagers décrits comme méritoires dans la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. شَرَعَ عَلَيْكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Sourate Ash-Shura, verset 13. Il a légiféré pour vous en matière de religion ce qu'il a enjoint à Nuh, et ce que nous avons révélé et ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa et à Isa. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Nous croyons ainsi que l'ensemble des messagers sont des êtres humains créés qui ne possèdent aucune des particularités de la seigneurie.
Non. Allah subhanahu. Nous croyons donc que les messagers sont des êtres humains créés. Ils ne sont pas des anges. D'accord? Ils ne sont pas des anges ou une autre créature. Ils sont des êtres humains créés. Et aussi, il faut savoir qu'il y a eu des messagers que parmi les hommes. Il n'y a pas de messagers parmi les femmes. Tous les prophètes et messagers sont tous des hommes. Naam.
Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de Nuh alayhi salam, qui est le premier des messagers, qui a dit « La aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamu al-ghayba wa la aqulu inni malak » Sourate Hud, verset 31. « Je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'imperceptible, ni que je suis un ange. » Et Allah subhanahu wa ta'ala a également ordonné à Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, qui est le dernier des messagers, de dire « قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَالَكِ » Surat al-An'am, verset 50. Dit, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'imperceptible, et je ne vous dis pas que je suis un ange. Et
non. De dire. Donc ici, auparavant, le cheikh a dit que les prophètes et les messagers n'ont aucune particularité de la souveraineté divine, c'est-à-dire que ar-rububiyya, les particularités de la seigneurie, elles n'appartiennent qu'à Allah, tabaraka wa ta'ala, au Seigneur des mondes. Ils n'appartiennent ni aux anges, ni aux prophètes, ni aux messagers, ni à personne d'autre à part Allah, tabaraka wa ta'ala. Et il a cité ici quelques versets qui mettent en exergue ce point-là, c'est-à-dire le fait que les prophètes et les messagers disent qu'ils ne connaissent pas l'imperceptible, disent qu'ils ne sont pas des anges, mais qu'ils ont été juste envoyés pour guider les gens sur la voie droite. Naam.
Et de dire لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله سورة الأعراف verset 188. Je ne possède pas pour moi-même ni profit ni dommage sauf ce qu'Allah veut.
Subhanallah, regardez. Donc, comment les gens peuvent prendre les messagers et les prophètes en divinité en dehors d'Allah ou en seigneur en dehors d'Allah qui dirige le monde alors qu'ils ne possèdent ni bien ni mal pour eux-mêmes? Comment peuvent-ils le posséder pour autre qu'eux s'ils ne le possèdent même pas pour eux-mêmes?
Naam. Et encore de dire قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Dit, je ne possède pour vous aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur la droiture. Dit, personne ne saura me protéger contre Allah, et je ne trouverai jamais de refuge en dehors de lui. Nous croyons que tous les messagers sont des serviteurs parmi les serviteurs d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala les a honorés par le message qu'il leur a révélé.
Donc, nous croyons que tous les messagers sont des serviteurs parmi les serviteurs d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala les a honorés par le message qu'il leur a révélé. Donc il n'y a pas de doute qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a fait une grande grâce et un grand honneur par le fait de les avoir rendus messagers. Et ceci est un des plus grands bienfaits après la guidée de l'islam. Ainsi, celui qui a hérité des prophètes dans leur science, dans leur prêche à Allah tabaraka wa ta'ala, dans leur droiture, alors certes, on peut dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a honoré par cela.
Non. Il les a décrits comme étant des serviteurs lorsqu'il mentionna leur instance les plus élevées et dans un contexte de louange. Il dit à propos du premier d'entre eux, Nuh alayhi salam, ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوح إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا Sourate al-Isra, verset 3. Et descendant de ceux que nous avons transportés dans l'arche avec Nuh, certes, il était un serviteur très reconnaissant.
Donc, il a dit au sujet qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait des louanges à Nuh alayhi salatu wassalam en disant qu'il est un serviteur très reconnaissant.
Non. Il dit au sujet du dernier d'entre eux, Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Exalté soit la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers.
Naam. Allah tabaraka wa ta'ala parle de son serviteur qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, tous les endroits où Allah tabaraka wa ta'ala a honoré le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, il l'a cité sous cette caractéristique-là et cette qualité qui est serviteur. Comme il dit dans Sourate al-Isra, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. Gloire et pureté à celui qui a fait voyager, qui a fait faire le voyage nocturne à son serviteur. Donc, à chaque événement ou situation ou caractéristique qui honore le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allah le décrit comme un serviteur. C'est pour cela le ubudiyya, la servitude à Allah, c'est un honneur. C'est un degré honorable et ce n'est pas un avilissement. Car la servitude à Allah tabaraka wa ta'ala est une libération. La personne n'est réellement libre. Personne, ceux qui croient, moi je veux être libre. Je ne veux être attaché à rien. Je ne veux me soumettre à personne. C'est un grand menteur. En vérité, il est soumis à Shaytan et à ses passions. Comme il a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, quand il a dit qu'ils ont fui la servitude pour laquelle Allah les a créés. Fabtulu. Et ils ont été donc éprouvés bi'ibadati nafsi wa shaytani. Par l'adoration du nefs et du shaytan. Effectivement, toute personne qui ne veut pas être un adorateur d'Allah, alors il sera adorateur d'une créature comme lui, qu'il le veuille ou qu'il le refuse, adorateur de ses passions, adorateur de son ego, adorateur d'une femme, d'un enfant, d'un homme, de l'argent, d'une passion, d'un ballon, de quoi que ce soit. Mais il n'est pas adorateur d'Allah. Celui qui veut fuir de l'adoration d'Allah, de la servitude à Allah tabaraka wa ta'ala, il sera un servant et un adorateur du dinar et du dirham ou d'autres choses sur terre ou d'une personne ou même parfois d'un bout de bois ou d'un bout de pierre. Alors personne n'est réellement libre tant qu'il n'est pas un serviteur d'Allah. Quand il est serviteur d'Allah, il est libéré totalement de la servitude et de la soumission à qui que ce soit en dehors d'Allah. C'est ça la réelle liberté. Mais la liberté absolue, dans laquelle il n'y a aucune obligation, aucun devoir, dans laquelle personne n'est soumis à l'ordre de personne, ça n'existe pas. C'est inexistant. Ce ne sont que des paroles pour tirer les gens vers le laxisme et le délaissement de la religion. Nas'Allah salamata wa al-afiyah.
Il dit à propos d'autres messagers, واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. Et rappelle-toi donc nos serviteurs Ibrahim, Ishaq et Yaqub, détenteurs de puissance et de clairvoyance. Sourate Sad, verset 45. وذكر عبادنا داود ذا الأيد إنه أواب. Sourate Sad, verset 17. Et rappelle-toi Daoud, notre serviteur doué de force. Il était certes très repentant. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. Sourate Sad, verset 30. Et à Daoud, nous fîmes don de Souleyman. Quel bon serviteur, il était très repentant. Il a dit aussi à propos de Isa, fils de Maryam, alayhi salam, in huwa illa 'abdun an'amna 'alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Sourate Az-Zukhruf, verset 59. Il n'était qu'un serviteur que nous avons comblé de bienfaits et que nous avons désigné en exemple aux fils d'Israël.
Naam. On voit alors donc encore ici des exemples dans ces versets, comment Allah tabaraka wa ta'ala loue les qualités et la haute morale de ses prophètes et de ses messagers qu'il a choisis. Effectivement, la prophétie n'est pas un degré que l'on atteint par les efforts que l'on fait dans les adorations. Comme certains soufis, certaines sectes soufis, certaines têtes pensantes parmi les soufis ont écrit dans leurs livres, et transmettent dans leur secte que la prophétie est un degré que l'on peut atteindre. Donc pour eux, leurs chouyouch et les wali, ils peuvent atteindre ce degré. Même pour eux, certains peuvent atteindre des degrés plus hauts que la prophétie. Subhanallah. Ceci est un mensonge. La prophétie est un choix d'Allah. Ce n'est pas le résultat de l'effort de l'être humain. Mais c'est un choix de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala choisit parmi ses anges des messagers et aussi parmi les hommes. Et Allah tabaraka wa ta'ala choisit d'honorer certains endroits, certains lieux, certaines personnes plus que d'autres. Et ceci est lié à sa volonté et à sa sagesse subhanahu wa ta'ala. Naam. Et il faut savoir que quand Allah tabaraka wa ta'ala dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il est envoyé à tous les hommes comme messager pour tous les êtres humains, cela signifie qu'il n'est pas envoyé pour une partie de l'humanité ou pour une tribu ou pour les Arabes seulement, mais il a été envoyé pour les Arabes et les non-Arabes. Naam.
Nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a clôturé l'ensemble des messagers par le message révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam et qu'il l'a envoyé à toute l'humanité conformément à sa parole. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku as-samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. سورة الأعراف verset 158 dit: Ô vous hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Point de divinité digne d'adoration à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah et en son messager, le prophète illitré qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Nous croyons que la légitimité...
Donc ça reprend ce que j'avais dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour tous les hommes, et non pas seulement les Arabes.
Nous croyons que la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam est la religion de l'islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé pour ses serviteurs. Allah n'accepte de quiconque aucune religion autre que l'islam selon sa parole. Inna ad-dina 'indallahi al-islam, sourate Ali Imran, verset 19. Certes, la religion acceptée d'Allah est l'islam.
Naam, l'islam ici, il a un sens précis, mais il faut savoir que l'islam, il peut être cité dans deux sens, un sens général. Le sens général, c'est le message avec lequel sont venus tous les messagers et qui est commun à tous les livres envoyés. C'est-à-dire la soumission à Allah tabaraka wa ta'ala par le tawhid et son obéissance subhanahu wa ta'ala et se désavouer du shirk et des partisans du shirk. Mais le sens qui est voulu ici, c'est un sens particulier de l'islam. C'est la législation avec laquelle est venu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'islam, il a un sens général et il a un sens précis. Et ici, dans le verset, ce qui est voulu, c'est le sens précis. C'est la religion et la législation avec laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Et sa parole, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sourate Al-Ma'idah, verset 3. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et complété sur vous mon bienfait. J'agrée pour vous l'islam comme religion. Et encore, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sourate Ali Imran, verset 85. Et celui qui désire une autre religion que l'islam, ce ne sera point accepté de lui, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants.
Naam. Ceci veut dire que toute personne qui cherche autre que l'islam comme religion, ceci sera refusé de lui et non accepté de lui, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. C'est-à-dire, si aujourd'hui quelqu'un vient et dit non, je crois en la chrétienté, je crois en au judaïsme, même s'il n'associe pas à Allah tabaraka wa ta'ala, mais il ne croit pas à la religion de l'islam, alors ceci ne sera pas accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. De même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un juif ou un chrétien qui entend parler de moi sans croire en moi, sans que sa place ne soit l'enfer. De même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute personne qui fait un acte dans lequel il n'y a pas notre ordre, il sera rejeté. Naam.
Nous sommes d'avis que quiconque prétend qu'il existe aujourd'hui une autre religion acceptée d'Allah, autre que l'islam, telle que le judaïsme, le christianisme ou autre, est mécréant.
Naam. Ici, c'est très important. Premièrement, ici, le cheikh cite un point essentiel dont nous avons parlé dans Nawaqid al-Islam. Celui qui croit qu'il existe aussi aujourd'hui une autre religion qui peut être acceptée, telle que le judaïsme, le christianisme ou autre, est un mécréant selon l'unanimité des musulmans. Il n'y a aucun doute sur cela. Naam.
S'il est musulman à l'origine, alors on lui accorde une occasion de se repentir. Qu'il se repente ou sinon, il sera exécuté en tant qu'apostat, car il a démenti le Coran. Cette sanction est applicable sous un régime appliquant la sharia. Nous sommes d'avis que celui qui renie le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam destiné à toute l'humanité, de ce fait aura mécru à tous les autres messagers, y compris celui auquel il prétend croire et suivre, Selon la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ Sourate al-Shu'ara, verset 105. Le peuple de Nuh traita de menteurs les messagers. Ainsi, Allah a considéré qu'ils avaient traité de mensonges tous les messagers, bien que nul messager n'ait devancé Nuh alayhi salam. Et Allah azza wa jalla a dit, إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا Sourate An-Nisa, verset 150-151. Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, qui veulent faire une distinction entre Allah et ses messagers, et qui disent, nous croyons en certains d'entre eux et en reniant d'autres, et qui veulent prendre un chemin intermédiaire, ce sont eux les vrais mécréants, et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment humiliant.
Donc on voit dans les versets qui ont été cités auparavant plusieurs points. Premièrement, celui qui mécroit au message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, a mécru en tous les messagers. Par exemple, si des chrétiens disent « Nous ne croyons pas que Mohammed est le messager d'Allah », alors on leur dit « Vous maintenant, vous avez mécru en Isa, comme cela a été rapporté dans le Coran que Isa a dit, dans le sens de ses paroles, et quand Isa, fils de Maryam, dit « Oh, enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah, qui est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom est Ahmed. » Aussi, on voit dans les versets qui ont été cités, comme le cheikh a dit, rahimahullah, que celui qui a traité de mensonge et qui a rejeté le message de Nuh, il a traité de mensonge tous les messagers. De même dans le dernier verset qui a été lu, celui qui veut prendre une partie et délaisser une partie, et qui veut faire une distinction entre Allah et ses messagers, alors ceux-là sont les vrais mécréants. Ceux-là sont les vrais mécréants. C'est-à-dire qu'ils veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance. Et ceux-là en vérité sont les hypocrites, qui croit en certains et qui mécroit en d'autres. Donc on a deux points ici. Celui qui dément un seul messager, il a démenti en tous les messagers. Deuxième point, celui qui croit en une partie et qui mécroit en une autre partie de ce qui a été révélé, alors il a démenti tous les messagers. Aussi, celui qui croit en une partie des législations précédentes et en refuse une autre, il a mécru dans toutes les législations révélées. Car tout ceci vient de la part d'Allah. Alors, de quel droit il se permet de différencier et de distinguer en quoi il a droit de croire et en quoi il a le droit de mécroire? Il lui suffit de rejeter une seule partie, une seule chose parmi les choses révélées de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran ou dans la Sunna authentique, tout en sachant que cela vient de la part d'Allah, alors il aura démenti. C'est un mécréant. Pourquoi? Car il aura traité Allah et son messager de menteur. C'est comme s'il disait, moi je connais mieux qu'Allah et son messager. Je crois pas en ça. C'est-à-dire, Allah il te dit qu'il y a eu des messagers qui sont passés avant, tu dis moi je crois pas. Donc il y a un problème. De même, celui que par exemple dans le Coran il y a une loi révélée sur quoi que ce soit, dans le halal ou dans le haram. Et lui il dit non, ça c'est pas haram. Allah il dit l'alcool c'est haram, il dit non l'alcool c'est pas haram. Tu lui dis mais Allah dans le Coran il dit l'alcool c'est haram. Il dit non et alors l'alcool c'est pas haram. Donc celui-là il est en train d'insulter Allah de menteur. Comment il peut être croyant? Il peut prier la nuit et le jour et jeûner tous les jours et prier toute la nuit et dépenser tout son argent, il est mécréant. Car il aura traité de mensonge une chose unanimement reconnue faisant partie de la religion. Ça c'est très important à comprendre ce point-là, barakallahu fikum. Qu'une personne, il est dans l'obligation de croire en tout ce qui a été révélé de manière authentique. Il n'a pas le droit d'hésiter, de douter ou de rejeter aucun point parmi ceux-là. Car sinon, en rejetant un seul parmi eux, il aura tout rejeté. Comme celui qui mécroit à un prophète. Par exemple, quelqu'un vient et dit aujourd'hui, moi, je crois au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en tous les prophètes, mais Issa, non, je crois pas. Quelqu'un vient et dit, moi, je crois pas en Moussa. Moussa, il n'a pas existé, c'est pas un prophète. Par exemple. Celui qui dit ça, il n'est pas musulman. Donc, ce point est très important à comprendre, car beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens tombent dans la mécréance à cause du rejet de certaines lois ou de certaines informations qu'Allah a révélées dans le Coran. Alors, ne parlons pas de ce qui a été révélé dans la Sunna authentique. Ça, c'est encore pire pour les gens. Allahul Musta'an. C'est pour cela, le cheikh a dit au début de ce chapitre, que cette personne, si à l'origine, si à la base, il est musulman, on lui accorde une occasion de se repentir avant de le juger mécréant. C'est-à-dire, on lui expose la gravité de ses paroles, on lui expose que cette parole ou cette croyance est un annulatif de l'islam. S'il se repent et il revient, alhamdoulillah, s'il ne se repent pas et ne revient pas, s'il est dans un pays musulman, le juge décidera de lui faire appliquer la peine de l'apostat.
Non. Nous croyons qu'il n'y aura plus de prophète après Mohammed, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Quiconque prétend la prophétie après lui ou donne foi à quiconque le prétend est mécréant, car il traite ainsi de menteur le livre, la sunna et le consensus des musulmans.
Non. Donc maintenant, on parle d'un autre point très important. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, comme notre frère a récité auparavant, que Mohammed n'est le père d'aucun parmi vos garçons, mais il est le messager d'Allah, wa khataman nabiyyin, et le sceau des prophètes, comme dans sourate al-Ahzab, verset 40. Donc, le sceau des prophètes veut dire qu'il est le dernier des prophètes. Et c'est pour cela que tout à l'heure, dans la définition et dans la différenciation entre un prophète et un messager, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que tout le monde est d'accord pour dire que tout messager est prophète. Et tout prophète n'est pas automatiquement messager. Parce qu'il y a aujourd'hui des sectes égarées qui prétendent la prophétie à des gens après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des mécréants, comme le Baha'iyya, les Baha'istes, ou ceux qui disent que Mirza Ghulam Ahmad, c'est Isa alayhi salam, c'est un prophète. Les Qadianiyya, comme ils s'appellent eux-mêmes, l'Ahmadiyya, les Ahmadites. Ils ont des temples dans la région parisienne et en France. Donc, tous ces gens-là qui prétendent qu'un prophète est venu après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien qu'il y a un prophète qui va venir après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en tant que prophète avec un nouveau message, c'est un mécréant. Sauf ce que l'on croit du fait que Isa alayhi salam va redescendre à la fin des temps. Mais il redescendra pas en tant que prophète pour la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il redescendra en tant que membre de cette communauté. Car il l'a demandé, quand il a vu la grâce et la valeur de cette communauté auprès d'Allah, il a invoqué Allah, « Ya Allah, fais-moi partie de cette communauté, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Donc il va revenir et il va suivre la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y viendra pas en tant que prophète et messager avec un message à transmettre aux gens. Ça, c'est fini. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est le dernier des prophètes et des messagers. Naam. Donc, toute personne qui prétend le contraire est un mécréant, bi ijma' al-muslimin, selon l'unanimité des musulmans.
Naam. Nous croyons que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a des califes bien guidés qui lui succédèrent dans sa communauté dans les domaines de la science, du prêche et de l'exercice du pouvoir sur sa communauté. Le meilleur d'entre eux et le plus digne de détenir le califat est Abu Bakr le véridique.
Alors, nous croyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé derrière lui des successeurs qui sont les califes. Successeur, c'est dans ce sens-là. Khalifa, c'est celui qui vient succéder. Et ces califes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits comme étant bien guidés. C'est-à-dire qu'ils sont sur la guidée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces califes dont il parle sont les quatre califes. C'est-à-dire les quatre successeurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans quoi ils l'ont succédé? Ils ne lui ont pas succédé dans la prophétie, car il n'y a plus de prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont succédé dans la direction du commandement de la communauté, dans la science, dans le prêche, dans l'exercice du pouvoir, dans l'organisation de la communauté des musulmans, et non pas dans la prophétie ou dans la révélation. Car la révélation s'est interrompue avec la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et nous croyons avec certitude que le meilleur d'entre eux et le plus digne d'avoir reçu le califat est Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr est le meilleur d'entre eux, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a demandé qui était l'homme qu'il aimait le plus, il a dit Abu Bakr. Et il a également dit, si j'avais à prendre un ami intime parmi les hommes, j'aurais pris Abu Bakr. De même que Allah l'a choisi pour être le deuxième de deux dans la grotte. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a désigné pour être imam et présider la prière des musulmans pendant qu'il était malade, pendant la maladie de sa mort sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer et donner un signe, une indication aux croyants de qui était le plus digne de prendre la direction des musulmans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup d'autres choses, plusieurs hadiths où il y a eu des situations où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit qu'il était le meilleur de la communauté et qu'il ne fallait pas l'embêter et qu'il les avait devancés dans la croyance, dans la dépense au service d'Allah, etc. Naam.
في عمر بن الخطاب، في عثمان بن عفان، في علي بن ابي طالب، qu'Allah les agrée tous autant qu'ils sont. Ainsi, l'ordre par lequel ils ont été prédestinés à se succéder dans la détention du califat est le même au niveau de leur mérite religieux auprès d'Allah.
Vous avez compris, ça c'est très important. L'ordre par lequel ils ont détenu le califat est le même que l'ordre de leur degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui détient la sagesse totale, n'aurait pu mettre à la tête des meilleures générations de croyants un homme alors qu'il n'en existait de meilleur et de plus digne de détenir le califat que lui. Nous croyons que celui qui est de moindre degré parmi les califes peut se distinguer par une qualité par laquelle il avance celui qui est meilleur que lui, mais sans atteindre le rang de celui-ci, car les actes qui engendrent le mérite sont nombreux et divers.
Naam, ça c'est très important. Il est possible que certains qui aient un moindre degré qu'un autre aient certaines qualités précises dans un domaine qui surpassent l'autre dans ce domaine, mais il n'arrivera pas à atteindre le degré de celui qui le surpasse en général. Car les actes qui engendrent le mérite sont nombreux, sont une combinaison d'actes et non pas un ou deux actes. On peut citer à titre d'exemple le fait que Shaytan, il fuit Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et ceci n'a pas été cité pour Abu Bakr par exemple. Pourtant malgré cela, Abu Bakr est meilleur que Omar. Ainsi, Omar a ce mérite qui n'est pas affirmé chez Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. De même que l'on peut citer que à plusieurs reprises, Omar ibn al-Khattab a cité certaines règles et a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il devrait faire plutôt comme ci ou comme cela. Puis le Coran est venu confirmer ce que Omar a dit. Ça, c'est une spécificité de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Malgré cela, il n'a pas atteint le degré, le stade d'Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhum ajma'in. Non.
Nous croyons que cette communauté musulmane est la meilleure de toutes les communautés et la plus noble auprès d'Allah, selon sa parole. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Sourate Ali Imran, verset 110. Vous êtes la meilleure communauté que l'on ait suscité parmi les hommes, car vous ordonnez le bien, interdisez le mal et croyez en Allah. Nous croyons que les meilleurs de cette communauté sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, puis leurs successeurs, puis les successeurs de ceux-ci, et qu'il restera toujours un groupe de cette communauté triomphant, sera sur la voie de la vérité. Nul préjudice de la part de ceux qui ont refusé de leur porter secours ne les atteindra, ni de la part de ceux qui les ont contredits, et ce, jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Naam. Alors, il a cité ici le cheikh rahimahullah, que les meilleurs de cette communauté sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un sahabi, un compagnon, c'est toute personne qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam croyant en lui et qui est mort sur cela, qui est mort sur cette croyance. Puis il a parlé des tabi'in, de ceux qui les ont suivis, des successeurs, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Puis il a cité le hadith qu'il restera toujours un groupe de cette communauté triomphant sur la vérité. Ça, c'est très important. Alhamdulillah, ça, cet argument, il est essentiel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une époque depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui dans laquelle la vérité n'existe pas. Que ce soit dans tous les points de la croyance, les points de la jurisprudence, tous les points qui font partie de la religion. Il n'existe pas une époque parmi les époques où la vérité s'est complètement éteinte. Il est possible qu'il y a des moments où elle est faiblie, et il y a des moments où elle est augmentée. Il y a des régions du globe où elle est plus forte, il y a d'autres régions du globe où elle est moins forte. Mais elle n'est jamais absente. La vérité avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam restera comme telle avec un groupe victorieux en tout temps, en toute époque, qui garderont cette vérité, qui la défendront et qui la répandront jusqu'à la fin des temps. Ça, alhamdulillah, c'est une garantie de la part d'Allah tabarak wa ta'ala de préserver cette religion. Elle sera préservée. Quoi que fassent les ennemis de l'islam, quoi qu'ils fassent comme manigance, quoi que fassent les ennemis extérieurs, des koufars et des ennemis déclarés, ainsi que les ennemis intérieurs parmi les hypocrites et les innovateurs, les munafiqin ou les mubtadi'a, ils ne pourront jamais éteindre la lumière d'Allah. Jamais. La question qui se pose, c'est nous, dans quel camp allons-nous être? Est-ce que nous allons faire partie de ceux qui ont secouru la vérité et qui auront réussi, ou bien de ceux qui ont succombé aux tentations et qui auront perdu? Mais la vérité, elle est là, elle restera. Elle n'a besoin ni de moi, ni de toi, ni de personne pour perdurer. C'est nous qui avons besoin de se joindre à la vérité et de secourir la vérité pour faire partie des vainqueurs. Mais sinon, la vérité, elle vaincra et elle sera secourue. N'en déplaise aux mécréants, et même si tout le monde abandonne les gens de la vérité, Allah va les secourir, subhanahu wa ta'ala. Même s'ils sont un tout petit nombre. Et ça, c'est un argument contre ceux qui veulent remettre en doute l'authentification des hadiths. Et qui disent, oui, mais ça, c'est un travail humain. Il est possible qu'ils se soient trompés. Oui, nous avons déjà répondu à cet argument. Un individu peut se tromper. Mais l'ensemble de la communauté ne peut pas se tromper. Il est venu plusieurs versets et hadiths qui montrent que la communauté dans son ensemble, elle est préservée de l'égarement. Ce hadith en fait partie. C'est-à-dire que la communauté ne peut pas se mettre d'accord sur quelque chose de faux. Si la communauté entière des savants, car les autres sont les suiveurs des savants, reconnaissent l'authenticité et le fait d'agir avec un hadith, alors avec certitude, ce hadith, il est juste. Car la communauté ne peut pas se réunir sur le faux. Et si on disait le contraire, cela voudrait dire qu'il y a une période parmi les périodes où la vérité aurait disparu, n'aurait plus existé. C'est-à-dire qu'on remet en doute le fait qu'Allah a protégé sa religion. Et on dirait par là que Allah a permis que sa religion soit complètement falsifiée et qu'il n'en reste pas une partie authentique. Et c'est ce que veut nous faire avaler tous les nouveaux soi-disant réformateurs, tous les shayatines. Surtout en France maintenant, ils ont une grande audience. On se demande qui est derrière pour financer tous ces gens-là qui viennent nous donner une nouvelle lecture de l'islam, comme si pendant 15 siècles, la communauté était complètement égarée et aujourd'hui, eux, ils se sont réveillés, ils ont reçu une révélation et vont nous ramener à un islam authentique. Attention à toute personne qui vous vient avec une nouveauté, une innovation, qui vous vient avec une voix qui n'est pas la voix qui a été héritée. C'est un héritage, cette science. Un héritage. Un relais. Les sahaba, ils l'ont pris de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont donné aux tabi'in. Qu'ils l'ont redonné aux tabi'in. Ainsi de suite. Les savants, comme il est venu dans le hadith authentique, sont les héritiers des prophètes. Ils l'ont hérité. C'est un héritage. C'est pas quelqu'un qui vient aujourd'hui nous invente une religion pour égarer tout le monde et nous fait des vidéos. Attention à tous ces gens-là. Ne leur prêtez même pas l'oreille pour qu'ils vous mettent un poison et un doute dans votre cœur. Et mettez en garde tous vos proches contre ces gens-là. Donc, en tout temps, il y aura la jama'a, le groupe sauvé qui sera sur la vérité. N'en déplaise aux mécréants, n'en déplaise aux innovateurs, n'en déplaise aux gens des passions. Alhamdulillah, ils peuvent utiliser toutes leurs armées, tout leur argent, toutes leurs forces, toutes leurs manigances. Ils ne pourront jamais, jamais éteindre cette vérité. Alhamdulillah, il faut être tranquillisé dans son cœur sur ce point-là. Il n'y a aucun doute. La crainte à avoir, c'est pour nous. Est-ce que moi, je vais me sauver ou je vais être égaré? C'est ça la crainte. Et d'essayer aussi d'appeler le maximum de gens à suivre la vérité. D'aimer la guider pour les gens. D'espérer qu'ils soient sur le bon chemin et qu'ils ne se laissent pas influencer par tous ces prédicateurs de l'enfer. Non.
Nous croyons que ce qui s'est passé comme différent entre les compagnons, radiyallahu anhum, ne le fut qu'en conséquence d'un effort d'interprétation. Ceux qui virent juste seront doublement récompensés, tandis que ceux qui se trompèrent seront rétribués d'une seule récompense, leur faute leur sera pardonnée. Nous sommes d'avis qu'il nous incombe de nous taire au sujet de leurs défauts et de ne les mentionner que par des propos élogieux, de même que de purifier nos cœurs de toute rancœur et haine envers chacun d'entre eux, d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à leur sujet. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. Sourate Al-Hadid, verset 10. On ne peut égaler cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et a combattu avant la conquête de la Mecque. Ces derniers sont classés à un rang supérieur à ceux qui ont dépensé et combattu après la conquête. Néanmoins, à chacun, Allah a promis la plus belle récompense. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à notre attention. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Sourate Al-Hashr, verset 10. Et ceux qui sont venus après eux disent « Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur contre ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. »
Non, On voit ici, barakallahu fikoum, un point très important qui fait partie de la croyance des gens de la sunna et du consensus. C'est notre croyance vis-à-vis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'amour qu'on leur porte. Premièrement, on doit les aimer, car ce sont eux qu'Allah ta'ala a choisis pour être les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils sont les meilleurs de cette communauté. Deuxièmement, on ne doit les énoncer qu'en bien. Et celui qui les énonce en mal ou qui les critique est un rafidri. Troisièmement, quant à ce qui s'est passé entre eux comme divergence, alors on n'en parle pas. C'est-à-dire on ne rentre pas dans le détail des explications et on n'en parle pas. Car comme Allah a préservé nos mains de cette fitna, alors on en préserve nos langues. Quatrièmement, on croit que chacun d'entre eux a cherché la vérité et un groupe a eu raison, un groupe s'est trompé. Celui qui s'est trompé aura une récompense du fait d'avoir cherché la vérité et s'être trompé. Et ceux qui ont eu raison auront une double récompense du fait qu'ils ont cherché la vérité et qu'ils l'ont atteint, comme il est venu dans le hadith authentique. Donc, on ne doit avoir dans nos cœurs aucune rancœur, aucune haine envers les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De même qu'il faut faire attention à beaucoup de livres dans lesquels il y a des versions non authentiques, où il y a des histoires qui sont rapportées sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui peuvent semer le doute dans les poitrines de certains. Surtout le livre « Les chroniques de Tabari », l'imam Tabari, c'est un grand savant, mais il a rapporté tout ce qui était dit. Il n'a pas fait le tri, car lui, il s'adressait à l'époque à un public averti, des gens qui avaient la science de pouvoir vérifier et authentifier les versions. Donc il venait après, il ne venait pas avaler comme ça, lire tout dedans, sans vérifier. Et aujourd'hui, les orientalistes ont profité de cela, ils ont traduit les chroniques de Tabari, et on trouve beaucoup de versions dedans qui ne sont pas authentiques, qui sont même des mensonges sur certains compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, et qui les montrent sous une mauvaise image, certains d'entre eux comme étant des gens orgueilleux, jaloux ou autres. Qu'Allah nous en préserve. Comment Allah a choisi ces gens pour apprendre le Coran, pour être en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour nous transmettre la religion d'Allah tabarak wa ta'ala. Alors, les critiquer, cela revient à critiquer en réalité la sagesse d'Allah et cela revient à critiquer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme si on disait que le prophète choisit pour lui des mauvais compagnons. Et nous connaissons tous le hadith que la personne a la même religion que son ami intime. Donc comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourrait choisir pour lui des gens qui sont mauvais comme compagnons? Et Allah ta'ala les a choisis pour lui auparavant. Aussi, plusieurs versets du Coran sont venus prouver la place des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah les a agréés. Il y a plusieurs versets sur cela, là on va pas pouvoir parler de ça, il faudrait un cours en entier, ou même plus que ça, pour montrer la place des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plusieurs hadiths authentiques, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'insulter ses compagnons, les hadiths où il dit qu'il faut s'attacher à sa voix et la voix de ses califes bien guidés, et d'autres hadiths, et l'unanimité des suiveurs, des successeurs et des grands savants de l'islam sur le caractère, on va dire, de fiabilité ou de grande confiance en les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils sont tous dignes de confiance et de confiance dans leur religion et dans ce qu'ils ont transmis de la part du prophète alayhi salatu wassalam concernant la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Maintenant, nous ne disons pas que les compagnons sont préservés de l'erreur. Ils ne sont pas des prophètes, donc ils ne sont pas préservés de l'erreur. Mais ils ne peuvent pas se mettre d'accord sur une erreur, comme pour après eux les savants de la communauté. C'est pour cela que l'unanimité est une preuve qui est très forte et très importante en islam. Quand l'unanimité des savants est prouvée dans un point, alors à partir de là, on saura contredire cela et contredire le chemin des croyants dont Allah Ta'ala parle dans Sourate An-Nisa, et c'est contredire le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Wallahu Ta'ala a'la wa a'lam. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم